Dans le studio Kalangou, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal au micro Nefissa Adamou Sirfo. À présent, les titres de ce journal, coupure intempestive d'électricité. Les villes de Niamey et d'Agadez durement affectées ces derniers jours. Difficile aujourd'hui d'y voir clair sur ces coupures, des précisions dans ce journal. Grognière des travailleurs du secteur de l'eau et de l'énergie de Zender. Ils protestent contre le licenciement de 5 de leurs collègues. À suivre les explications du Sinatren et de la Soraz. Enfin, question sur les maladies sexuellement transmissibles. Une ligne d'aide à distance dite ligne verte répond gratuitement à toutes les questions des jeunes. C'est à retrouver dans la partie magazine de ce soir. À Agadez, les coupures intempestives d'électricité font partie du quotidien des populations depuis une semaine. Pour comprendre les raisons de ces coupures, le Conseil régional de la jeunesse d'Agadez a rencontré vendredi dernier le directeur régional de la Nigelec. Que retenir de cette rencontre? Réponse avec Ousmane Koutata, président du Conseil régional de la jeunesse d'Agadez, au micro de Moussa Maman.
Nous avons demandé au directeur s'ils ont des solutions qu'ils préconisent pour vraiment pallier à ces problèmes. Vraiment, le directeur nous a édifiés par rapport à une idée qu'il compte mettre très bientôt en marche, en partenariat avec les sociétés communales Kisumaïr, pour qu'ils mettent en marche leur groupe à diesel, pour qu'ils puissent alimenter leur société communale Kisumaïr, et qu'enfin la Nigelec puisse avoir l'électricité de la Sunichar, afin de satisfaire la population. Nous pensons que c'est une bonne idée, mais à long terme, elle ne peut pas tenir, parce que nous savons bien que les carburants coûtera cher pour ces sociétés. Néanmoins, la Nigelec nous a promis qu'elle va leur proposer de leur donner les carburants pour qu'ils puissent alimenter leur groupe. Mais toutefois, est-il dit, nous, ce que nous pensons, c'est que la société Sunichar doit revoir ses tranches pour les moderniser. Pourquoi ne pas créer une troisième ou deux tranches pour que l'électricité soit suffisante? Nous appelons cette société qui est la Sunichar à faire en sorte vraiment de redoubler d'efforts pour qu'une troisième ou deux autres tranches soient créées afin que ces problèmes d'électricité soient palliés à jamais.
Et la ville de Niamey qui connaît à nouveau d'importantes coupures d'électricité. La capitale est restée dans le noir toute la nuit d'hier, perturbant ainsi le système de distribution d'eau potable, une situation qui affecte durement la population. Contactée par la rédaction du studio Kalangou, la société nigérienne d'électricité n'a pas encore apporté de réponse sur les raisons de ces coupures. Nous vous en parlions sur cette antenne au mois de juin dernier. La Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia avait entamé une opération de contrôle des enseignants contractuels dans l'ensemble du pays. Après 2 mois de travail, la Halsia dresse le résultat à mi-parcours de cette opération d'identification dans 5 régions du Niger. Salissou Oubandoma, vice-président de la Halsia, au micro de Rahilatou Soumana.
Nous avons considéré 2 catégories pour maintenant faire un calcul pour savoir qu'est-ce que l'État perd, quel impact cela fait sur le plan financier en termes de pécule. Nous allons considérer la première catégorie des enseignants qui sont sur la liste de l'inspecteur, mais qu'on ne retrouve pas sur le terrain. Et ils sont au nombre de 1917, plus les doublons qui sont au nombre de 640. Nous les avons additionnés pour prendre des moyennes de pécule. Pour l'éducation primaire, nous avons considéré une moyenne de 115 000 francs de pécule. Quand vous faites le calcul, vous allez voir que rien que pour l'enseignement primaire, l'État perd par an environ 2 milliards. Pour l'enseignement secondaire, c'est environ 500 millions par an. Je parle de ces 5 régions, puisqu'on n'a pas finalisé. Et pour l'enseignement professionnel et technique, c'est à peu près donc 60 millions que l'État perd. En tout, l'État perd plus de 2 milliards. Mais dans tous les cas, tous ceux qui ont une responsabilité, qui ont joué un rôle dans cette situation-là, dans quelques jours, ils vont répondre à la RCA.
Vous venez là d'entendre le vice-président de la Halsia sur l'opération de contrôle des enseignants contractuels de l'ensemble du pays. À la suite donc de ce point de presse, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB a souhaité que des poursuites soient engagées contre les responsables des manquements constatés afin d'assainir le secteur éducatif nigérien. Issaka Omaru, membre du bureau exécutif du SINASEB.
Il ne s'agit pas tout simplement de venir publier un rapport et de laisser les responsables courir, parce que même si aujourd'hui l'opinion nationale sait qu'il y a des enseignants fictifs, si des poursuites ne sont pas engagées contre ces responsables, c'est le même phénomène qui va continuer et il arrivera un moment où on peut recruter du n'importe quoi, on peut faire du paiement des enseignants contractuels un commerce, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui le manque à gagner de l'État par rapport à ces enseignants contractuels s'élève à un peu plus de 3 milliards. Donc 3 milliards qui vont dans les poches de certains individus, tout simplement parce qu'ils ont une certaine responsabilité, ça aurait des conséquences néfastes sur l'école, parce que ça ne garantit pas le paiement à terme échu. Aujourd'hui, le gros problème que nous avons au niveau du secteur de l'éducation, d'abord, il faut dire que les enseignants contractuels représentent la majorité des enseignants créés en main. Et ce sont ces enseignants contractuels qui ne sont pas payés à terme échu. Non, paiement à terme échu de ces enseignants contractuels est d'une part la conséquence de cette forfaiture que les responsables sont en train de faire au niveau des payeries, au niveau du ministère, au niveau même des inspections et au niveau des directions régionales.
Des propos recueillis par Assoumana Shina. Éducation toujours, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens CDUSN a rendu public hier après-midi une déclaration sur le non-paiement des bourses et aides sociales aux étudiants nigériens. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures dans les établissements. Écoutons le secrétaire général de ce comité directeur de l'USN, Soumana Ousseini Sambo.
La question relative aux infrastructures, c'est-à-dire je parle des classes, des latrines au niveau des lycées, au collège, des amphithéâtres qui ont commencé leur construction il y a cela, 5 ans de cela, qui n'ont pas été achevés. Et par rapport à ces ras-de-bol que l'Union des scolaires nigériens est en train d'observer avec lamentation, nous allons dire que nous avons sorti de notre silence pour prouver à ces autorités que notre silence n'est pas une faiblesse, mais c'était un recul pour que nous puissions dialoguer avec eux. Mais nous avons constaté que avec les autorités de la 7e République, il n'y a pas de résultats probants par rapport à ce qui est des solutions et par rapport aux engagements qui ont été pris et qui n'ont pas été honorés. Donc nous avons, à partir de ces jours, lancé un mandat de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger pour demander la suspension des activités académiques, y compris les examens.
Dans leur déclaration d'hier, l'Union des scolaires nigériens a lancé une grève de 72 heures. Dans celle-ci, les étudiants ont remis en cause les propos tenus par le ministre de l'Enseignement supérieur Ben Omar samedi dernier. Ils revendiquent le paiement des aides sociales et la construction de classes et de latrines en matériaux définitifs. Une grève qu'approuve Cheibou Dambaji, le secrétaire général du syndicat des enseignants du secondaire SNES à Niger.
Il est bien évident que la rentrée, il était difficilement qu'elle puisse être effective. Et j'ai compris que c'était vraiment un cocktail suffisamment explosif au niveau des universités. Et au niveau de la section collège-lycée, c'est pratiquement la même situation. Vous avez des promesses qui ont été faites autour de construction de latrines. C'est quand même des besoins basiques. Parce que vous ne pouvez pas avoir une école sans latrine. Et ce problème-là, ça ne s'oppose pas qu'aux élèves, même au niveau des enseignants. Vous allez prendre des grands lycées de référence. Si vous partez voir leur toilette, madame, si on vous dit d'y entrer, vous n'allez pas le faire. Ce qu'ils demandent là, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Si on veut véritablement d'une école de qualité, il faut que ces jeunes-là soient à l'abri d'un minimum. Mais vous savez, l'essentiel, ce n'est pas la rentrée. C'est ce qui se passera tout au long de l'année. Donc s'il y a des perturbations au cours de l'année, c'est ça qui compromet le bon déroulement de l'année.
Le syndicat national des travailleurs de l'eau et de l'énergie, section de Zender, a appelé hier ses militants à un sit-in devant la direction générale de la SORAZ. Ceci pour protester contre le licenciement vendredi dernier de 5 travailleurs, dont 2 délégués du personnel. Les explications du chargé de l'information du Sinatren, section de Zender, Mohamed Lao Magaji.
Les 2 premiers sont des délégués du personnel. Il y a le test qui se passe à la SORAZ chaque fin du mois ou évaluation. Et les 2 délégués personnels ont pris la décision de boycotter. Et la direction générale a pris l'engagement de leur licenciement. Il y a 2 autres qui ont demandé la disponibilité à la SORAZ. Et aussi, la direction générale a pris la décision de licencier aussi. Le 5e, lui, c'est un docteur de la SORAZ. Il s'appelle Mboudeta, il est malade. La direction générale de la SORAZ aussi, elle a pris la décision de licencier. Voilà leur présent, la direction générale de licencier les 5 camarades.
Donc, ce sont les raisons avancées par la direction générale de la SORAS.
Oui, oui, c'est les raisons de licencier nos 5 camarades. Au moment qu'on a appris, on est parti directement voir l'inspecteur du travail. Parce que on ne peut pas sanctionner d'abord les délégués du personnel sans constat du inspecteur du travail.
Je vous propose à présent de suivre la réaction du représentant de la direction générale de la SORAS, Magaji Dada.
D'abord, il y a eu rupture d'un contrat entre la SORAS et le médecin de la SORAS. Qu'est-ce qui explique cela? Le médecin est dans l'incapacité pour des raisons de santé et de se présenter à la SORAS pour travailler. Et ça fait un an qu'il ne vient pas. Donc, la SORAS a décidé de rompre le contrat. Après cela, il y a eu deux cas. Deux agents de la SORAS ont demandé une disponibilité. La SORAS a refusé. Une disponibilité, c'est quelque chose qui est réglementé. Si nous estimons que c'est des gens qui veulent aller travailler ailleurs, c'est pas une disponibilité. Donc la SORAS a aussi dit de refuser la disponibilité. Mais cela ne veut pas dire qu'on les a licenciés. Maintenant, les deux autres cas, c'est là les cas de licenciement. Il s'agit de deux ingénieurs qui occupent des postes sans nigériser. C'est-à-dire que c'est des postes que maintenant qui reviennent à l'état du Niger. À cet effet, ces agents vont faire l'objet d'évaluations régulières. Les ingénieurs ont refusé de se faire évaluer. Voilà un peu ce qui explique qu'on les a licenciés.
Des propos recueillis par notre correspondant de la région de Zender, Ali Keita. C'est aujourd'hui la date butoir du déguerpissement de tous les parcs de vente de véhicules d'occasion de la ville de Niamey. Pour rappel, les responsables de ces parcs avaient déjà trouvé un nouveau site et les autorités avaient pris l'engagement d'une aide pour sa réhabilitation. Où en est-on par rapport à ce déménagement? Gungu Mahamad Dantani s'est entretenu avec le vice-président régional du syndicat des revendeurs des véhicules d'occasion, El Hadja Hamidou Bonzougou. Nous l'écoutons.
Nous, notre délai, c'est aujourd'hui. Mais vraiment, le temps ne peut pas nous permettre de venir ici aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, ils n'ont qu'à les laisser jusqu'à le temps que le chef de grade de la mairie a fini son travail. Parce qu'on ne peut pas amener le véhicule avec les gradaires ensemble ici. Ça ne peut pas aller. Mais ce qu'on va faire maintenant, de faire possibilité pour arranger.
Ça veut dire que présentement, il n'y a personne sur les endroits occupés.
Non, il n'y a aucune voiture. Les hangars, tout, c'est des parpaissés. Maintenant, on n'a pas de biens là-bas. Sauf nous, on attend le travaux de la mairie seulement. S'ils ont fini aujourd'hui, nous sommes prêts. Voilà, nous, on a commencé à amener notre véhicule même. C'est l'Amérique qu'on attend fini aujourd'hui ou bien demain. S'ils ont dit c'est fini aujourd'hui, nous sommes prêts déjà.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
Place à présent à la partie magazine de ce journal. Elle porte sur les questions des risques pris par les jeunes lors de leur relation sexuelle. Créée en 2005 par le ministère en charge de la jeunesse et des sports, la ligne verte est un service gratuit d'aide à distance proposé aux jeunes adolescents pour répondre à leurs interrogations sur les questions des maladies sexuellement transmissibles et du VIH-SIDA. Madame Traoré Maria Andia, coordinatrice de la ligne verte, au micro de Rukayatou Abdourahman.
La ligne verte est un service où les jeunes et les adolescents, ils appellent pour s'informer sur les questions de santé publique en général, mais particulièrement sur les questions telles que les IST, VIH, SIDA, la santé de la reproduction, la planification familiale. La ligne verte était disponible avant sur le 15, qui a été transformé pour le 14, et maintenant depuis juin 2016, la ligne verte répond sur le numéro 614. La ligne verte a été créée en 2005 avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et les partenaires au développement tels que l'UNFPA. La ligne verte permet d'éduquer, de soutenir, d'orienter, d'accompagner et ce, dans le strict anonymat, les personnes infectées et ou affectées par le VIH-SIDA. La cible principale, c'est surtout les jeunes et les adolescents. Trimestriellement, on reçoit jusqu'à 1000 appels. On reçoit des appels de toutes les régions. Ici, au Niger, vu le caractère tabou, les questions de sexualité, la ligne verte, c'est un cadre adapté. Les jeunes appellent, ils sont éveillés, ils veulent être au courant de le dépistage, ils sont vraiment éveillés, ils sont curieux.
Par exemple, quand un jeune vous appelle pour une inquiétude, quelle procédure vous suivez pour apporter une aide à ce jeune?
Les appels de la ligne verte sont anonymes et gratuits. Le jeune appelle, pose sa question, puis au bout du fil, il y a des conseillers, il y a des écoutants qui sont formés et puis qui peuvent répondre. On fait des campagnes de sensibilisation, de proximité, de sensibilisation de masse. Donc, on va vers les jeunes, on va dans les FADA, on va dans les salons de coiffure, on se déplace, on fait connaître le centre parce que la ligne